بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
ما شاء الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولعل الله عز وجل يسر لقاء آخر لإتمامه. المهم أن هذا الحديث العظيم الذي حوى هذه الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل بها يحيى عليه السلام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس أخرى. الخمس الأولى أولها توحيد الله جل وعلا، عبادته تبارك وتعالى وعدم الإشراك به شيئا. آخرها ذكره تبارك وتعالى. قال يحيى عليه السلام: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا به ومدح عباده المكثرين ذكره والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الذاكر لله في حصن حصين، هذا الحصن هو حفظ الله تبارك وتعالى لعبده. العبد كلما ذكر ربه كلما حفظه الله، خاصة في الأماكن التي تكثر فيها الشرور وتعج بالشياطين لزاما علينا أننا نحصن أنفسنا وأن نقيها مثل هذه الشرور، ليس بشيء عظيم أو بشيء يكلفنا كثير. أن نذكر الله، نحافظ على ذكره، نحافظ على الأذكار المسمومة، أذكار الصباح، أذكار المساء. من قرأ آية الكرسي إذا أصبح لا يضره الشيطان حتى ينسي، وإذا قرأها حين يمسي لا يضره الشيطان حتى يصبح. حماية كاملة وحفظ كامل. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخلها الشيطان، حماية تامة وحفظ كامل. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور، حجاب ربان. مثل ذكر الله جل وعلا بهذا التمثيل البديل، مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا، العدو وراءه يدرون خلفه، إذا به أتى حصنا حصينا. الحصن يقول الهمد ما لا تخطفه، هذا الحصن أسواره عالية، أبوابه محكمة الإغلاق. ادخل لهذا الحصن ونجا من شر عدوه ألا وهو الشيطان. فضل عظيم يا إخوان، تعلموا وعلموا أبناءكم ذكر الله تبارك وتعالى، لأن ربكم أمركم بذلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. احموا أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم من هذه النار. بماذا؟ بتقديم الطاعات والقربات. الصدقة تنجيك وتفك أسرك وتحفظك من عذاب الله. اتقوا النار ولو بشق تمر. وكما جاء في الصحيحين من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم خرج للنساء وقال تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قدموا هذه الطاعة وفكوا رقابكم من عذاب الله بالصدقة تريدون بها وجه الله تبارك وتعالى. وثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه أو هذا الحديث وأنا آمركم بخمس كلمات. خمس كلمات وصية نبينا لنا ألا وهي السمع والطاعة والجهاد والهجرة والفتح. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي الذي يكون تحت الراية ويكون بالإمارة ويكون من وراء العلماء الربانيين. وإياكم وإياكم من الفتن ومن أهلها وأصحابها، إياكم من دعاة الضلالة. لا تستجيب لأي دعوة لا يكون فيها أمثال هؤلاء الذين أمرنا بأن نكون معهم وأمرنا بالرجوع إليه. ربنا ما أمرنا بالرجوع إلا إليه، للعلماء الربانيين. ولهذا دعوة الحق يكون أئمتها وعلى رأسها علماء الحق، والدعوات الباطلة لا تجدون فيها عالما واحدا. في زمن الصحابة ظهر الخوارج فرقة من الفرق، صح ولا لا؟ ما فيها صحابي من أصحاب رسول الله، ورسول الله مات وترك منهم الآلاف الآلاف من الصحابة. ألا يدل هذا على شيء؟ بلى، يدل. الحق مع هذه الجماعة، الحق مع هذه الطائفة المنصورة، مع هؤلاء الصحب الكرام الذين مات رسول الله وهو عنهم راض. فاحذروا يا إخوان، احذروا الفتن، واحذروا دعاة الضلالة، وحافظوا على جماعتكم واجتماعكم، واجتمعوا على الحق الذي بينه لكم نبيكم ودعاكم إليه علماؤكم الربانيون الراسخون الذين يعرفون، كما قال الحسن، الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت. نسأله جل وعلا أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ونكتفي بهذا القدر. والله نسأل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك في هذه المدينة أن يجمعنا على ذكره وطاعته، أن يجمعنا يوم القيامة بين يدي رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الحمد لله. m'adresse aux femmes si elles peuvent laisser le son de leur voix. Barakallahu fikoum. Le cheikh Hamidallahu Ta'ala nous dit, nous aurions tant aimé poursuivre l'explication du hadith jusqu'à sa fin, mais c'est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. Et on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera notre rencontre afin de poursuivre l'explication de ce hadith. L'essentiel est qu'il y a dans ce hadith de nobles recommandations. 5 paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à Yahya alayhi salam. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, à la fin de ce hadith, a ordonné 5 autres paroles. La première qui a été révélée à Yahya alayhi salam est donc unifier Allah d'un culte sincère et se préserver de toute polythéisme. Et la dernière étant l'évocation d'Allah. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, la dernière recommandation nous dit l'exemple, ou bien c'est l'évocation d'Allah. Il vous a prescrit d'évoquer Allah abondamment. L'image de l'homme qui évoque Allah est semblable à celle d'un homme poursuivi par son ennemi. Il se réfugie dans une forteresse afin de s'en prémunir. Ainsi, le serviteur ne se protège du diable que par l'évocation d'Allah. Le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué le hadith. Il nous dit, voici une parabole citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a à ses trousses des ennemis, ils le poursuivent et courent derrière lui. C'est alors qu'il voit une grande forteresse, un grand édifice dont les portes sont très élevées et consolidées. Il y entre et voici qu'il se retrouve en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et c'est ainsi que le serviteur ne se protège du shaytan que par l'évocation d'Allah. L'évocation d'Allah est donc une forteresse et une citadelle inviolable. Et c'est en réalité la préservation qu'Allah accorde à son serviteur et sa protection. Particulièrement, tu dois évoquer Allah avec abondance lorsque tu te retrouves dans des endroits où il y a les nuisances comme les shayatines, comme la propagation des shayatines. Il te faut évoquer Allah avec abondance. Et comment te préserver de ce grand mal? Tu n'as pas besoin de dépenser de grandes choses ni de te fatiguer grandement. Tu n'as qu'à évoquer Allah et il te protégera. Évoque Allah au réveil. Évoque Allah au coucher, les invocations du matin, les invocations du soir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite Ayatul Kursi le matin sera sous la protection d'Allah jusqu'au soir. Et celui qui récite cela le soir se verra sous la protection d'Allah jusqu'au matin. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit également que celui, ou plutôt que Shaytan, n'entre pas dans une maison dans laquelle est récité Suratul Baqarah. C'est donc une préservation totale et une protection absolue qu'Allah accorde à son serviteur qui l'évoque. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran, sur la traduction approchée, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, il mettait un voile, un rempart entre lui et ceux qui n'ont pas foi en l'au-delà. Donc voici ici une belle parabole citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une grande forteresse dont les fondations sont solides et très élevées. Tout comme a dit le cheikh dans son explication, Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de nous préserver, nous, ainsi que nos familles du feu. On doit se sauver, affranchir nos personnes du feu de l'enfer. Et on doit éduquer nos épouses et nos enfants afin qu'ils se préservent du feu de l'enfer. Par quelle action? En avançant pour demain des actions pieuses, en obéissant à Allah, en donnant des aumônes, en faisant des sadaqat, ainsi tu seras préservé par Allah. Dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour se rendre auprès des femmes. Et il leur a dit, donnez des aumônes. Oh, vous les femmes, donnez des aumônes. Ne serait-ce qu'en donnant de vos bijoux ou bien de vos bracelets. Car j'ai vu que la plupart des habitantes de l'enfer étaient des femmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des recommandations à sa communauté. Il a transmis les 5 recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala faites à Yahya alayhi salam. Lui, il a cité 5 recommandations. Voici les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Il y en a également 5. Écoutez et obéir, c'est-à-dire au gouverneur, à ceux à qui Allah azza wa jalla a donné la responsabilité. Deuxièmement, le combat dans le sentier d'Allah. Troisièmement, l'égir. Quatrièmement, le fait de rester avec le groupe. Le premier comprend 2 points. Le cheikh nous dit qu'il nous faut obéir au gouverneur. Et ce qui est voulu par le combat, la lutte dans le sentier d'Allah dans ce hadith, et ce qui a été légiféré sous l'étendard, sous la bannière, légiféré derrière les savants de l'islam, et prenez garde à ces troubles que nous voyons et aux personnes appelant aux troubles et aux adeptes de ces troubles, ceux qui ont emprunté les chemins de l'égarement, et ne répondez pas à leurs appels. Chers frères, méditez une chose. Toutes les personnes de l'égarement, lorsqu'elles invitent à une porte de l'égarement, on ne trouve personne parmi les ulama avec eux. Prenez pour exemple l'époque des Khawarij. Lorsque les Khawarij sont sortis, il y avait Sahab. Ils étaient plus d'un millier après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y avait dans leur rang un seul parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aucunement. Et si cela nous indique une chose, ça nous indique que la vérité est avec le groupe des compagnons, des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dont on fut satisfait à sa mort, radiallahu anhu. Aussi, préservez-vous et ne suivez pas tous les semeurs de troubles. Soyez derrière ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de revenir, c'est-à-dire les savants. Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, disait, ne connaît les troubles avant leur venue que les savants. Ou bien les savants reconnaissent les signes précurseurs des troubles. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, le cheikh Hamidahullah ta'ala, pardon, a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala en faveur et a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il unisse entre nos cœurs. Et tout comme il nous a unis dans cette demeure, il a demandé à Allah azza wa jalla de nous unir au paradis et il a fait d'autres invocations à Zahullah Khayyam.
أحاول أن أجيب على بعض أسئلة إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقنا الصواب والسداد.
Cher qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Pouvez-vous nous accorder des recommandations envers les jeunes qui suivent le chemin des plus prédécesseurs? Qu'Allah vous récompense pour ce que vous avez fait pour nous.
Amen. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والله نصيحتي التي أوجهها لإخواني جميعا في العالم الإسلامي أينما وجدوا حيثما كانوا من إخواننا السلفيين الذين جمعنا الله تبارك وتعالى بهم على هذا المنهج القويم في هذه الحياة. أسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياهم مع من تقربنا إلى الله تبارك وتعالى بحبهم وحسن اتباعهم سلف هذه الأمة الكرام. نصيحتي لكم جميعا إخواني بالعلم النافع والعمل الصالح، ولهذا بعث نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال ربنا جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
الهدى قال أهل العلم العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهذا بعد تحقيق وصية النبي بل وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله تبارك وتعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات، أن تستقيم على أمر دينك، وأن تجتهد على هذا حتى تلقى ربك. هذه الدنيا لا تغرنكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه الدنيا متاع قليل، متاع قليل. يقول ربنا جل وعلا، وهذه آية عظيمة في هذا الباب، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. قد علمتم يا إخوان أن هذه الدنيا متاع الغرور، وأنها قليل في قليل على قليل، والله لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا وما فيها، الدنيا وأراضيها، الدنيا وبلدانها وعواصمها، كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة، ولكنها حقيرة هينة سماها خالقها وبارئها دنيا لدناءتها. والله جل وعلا استخلفنا واستعملنا فيها ليرى ماذا نعمل، ليرى ماذا نعمل. فاتقوا الله إخواني، تعلموا دينكم، تعبدوا ربكم بصالح ما أمركم، اجتمعوا فيما بينكم، تعاونوا على البر والتقوى، اجتمعوا على كلمة سواء، لأن الذي عندكم كفيل بجمعكم، بجمع قلوبكم وبجمع كلمتكم وباجتماعكم على هذا الحق. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى.
Ma recommandation est la science utile, d'étudier la science, d'apprendre la science utile et les actions pieuses. Et c'est avec deux choses, ces deux choses-là que fut envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous le dit Allah dans son livre selon la traduction, c'est celui qui a envoyé son messager avec la voie et la religion de vérité, afin que cette religion ait la suprématie sur l'ensemble des autres. Les savants expliquaient ce verset en disant que la voie dans ce verset, c'est-à-dire la science utile, la science profitable. Quant à la religion de vérité dans ce verset, son sens est les actions pieuses. Et avant cela, je vous enjoins la recommandation d'Allah faite aux premières et dernières générations, c'est-à-dire la piété, la crainte d'Allah, le fait de se prémunir du châtiment d'Allah, être taqwa. Allah nous dit dans le Coran, selon la traduction, nous avons certes enjoint
Nous avons déjà enjoint ainsi qu'à ceux qui étaient avant toi de craindre Allah. Non. Donc faites des efforts dans l'obéissance à Allah et prenez vos provisions afin de les rencontrer. Et que ce vaman ainsi que ses richesses ne vous trompent pas. Ne vous laissez pas avoir par la dunya. Cette dunya n'a aucune valeur. Et écoutez ce verset. Et ô combien il est immense. Donc selon la traduction, on leur dira, ou bien il dit, combien de temps êtes-vous resté sur la terre? Ils répondront, nous sommes restés un jour ou une partie de celui-ci. Voici ce qu'ils croiront être resté. Un jour ou une partie de celui-ci. Demandez donc à ceux qui peuvent compter. Et ils sont restés que très peu si seulement ils savent. Donc mes frères, vous avez su que ce bâton n'a aucune valeur. Ce bâton ne représente même pas chez Allah ne serait-ce que l'aile d'un moustique. Comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, si ce bâton avait la valeur chez Allah de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné, ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, il n'aurait pas donné, na'am, ni même une gorgée d'eau à un kafir. Le shir, habillahullah ta'ala, commence cela et nous dit tout ce bâton et ce qu'il renferme, comme terre, comme capital et comme richesse, tout cela n'a aucune valeur et ne représente même pas, inch'Allah, ne serait-ce que l'aide, la moustique. Donc ne te fais pas tromper par cette dunya. Elle est peu et il en reste que peu parmi le peu qu'il y a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné afin de nous tester et voir comment est-ce que nous allons agir avec celle-ci. Mes chers frères, apprenez votre religion. Adorez Allah, votre Seigneur, et entraînez-vous dans le bien ainsi que la piété. Unissez-vous sur la vérité que vous avez. Unissez votre parole et entendez-vous sur une seule et même voix. Et ce que vous avez, c'est-à-dire comme vérité, vous est suffisant et vous garantit une unité. Notre noble cheikh, Allah vous préserve, beaucoup parmi les gens pensent que Al-Iltifat, c'est le fait d'être distrait de par son regard. Et en s'arrêtant à cela, en omettant la distraction du cœur, alors que cela est très dangereux.
وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان يعني بعض الناس يعتقدون أن الالتفات ما كان من هذا النوع يعني التفاتا خفيا أو التفات القلب فقط هذا يعني غيره من باب أولى. إذا كان يعتقدون أن هذا الالتفات هو المقصود من الحديث وهذا في الحقيقة مقصود من الحديث بالأولوية لأنك مأمور بعدم الالتفات ببصرك وكذلك بقلبك لأن من منافذ القلب السمع والبصر وبالتالي لا تخشع في صلاتك حتى يخشع قلبك ولا يخشع قلبك حتى تخشع جوارحك. فأول هذه الجوارح التي أمرنا بها أو فيها بالخصوص في البصر نهانا رسول الله أن نلتفت في صلاته وسمى هذا اختلاف يختلسه الشيطان.
التفات القلب من باب أولى، يعني لا يشغل الإنسان نفسه أو قلبه في صلاته بالأمور البعيدة عن الصلاة، وهذا الذي يفعله الشيطان، هذا الذي يفعله الشيطان من الشياطين. الشيطان مختص بالصلاة، سبيسياليست في الصلاة، سبيسياليتي هو أنه يوسوس لك في صلاتك، ما عنده أخر أوبجكتيف كسر، يجيك في الصلاة أنت تدخل في الصلاة، شوفوا هذه الصلاة، أول ما يؤذن المؤذن يدبر الشيطان، يفر حتى يسمع له بواب، يقول النبي عليه الصلاة لا يتحمل كمان كلمة التوحيد، لا يتحمل سماع التكبير، يفر يهرب. قال أهل العلم يفر حتى لا يسمع الأذان، حتى لا يسمع الأذان، ولكن خلاص يفر من غير رجعة أبدا، يفر وبعدين يتربى ينتظر إذا انتهى الأذان رجع يرجع إليه ويجتمع على قلبه ويبدأ في العمل، تدخل انت في الصلاة ويبدأ يذكرك، شفت الزوجة، شفت الأولاد، الله يحفظهم الزوجة، شفت العامل بتاعك، شفت المعلم بتاعك، شفت الحساب بتاعك، شفت الكونت بتاعك، وهكذا ليصرفه عما أمر به في صلاته، أمر أن يخشع قلبه، الحسابات هذه ما تخليهش يخشع، ولهذا نهينا احنا في الصلاة عن كل الشواهد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين، يعني يكون محصور، محصور بول أو قضى حاجة ما يصليش على هذه الحاجة، يروح يقضي حاجته، لأنه إذا صلى على هذا الحال خلاص ما راح يخشع، يبقى ينتظر غير يفريها. لا يصلي بحضرة الطعام، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، جاء الطعام حطوله الله يبارك، يعني خاصة إذا كانت تسعى في متاع اليوم يقولوا، وبعدين يقول لو قامت صلاتين صلوا، كان بعض الناس عندهم عند شوية ورع زائد يظنوا أنه هذا هو التدين، كيف أن الماكلة هذه تمنعني من صلاتي، الصلاة هي تقول نار عن الآكل، هذا ربك الذي خلقك والذي فطرك هو الذي شرع لك هذا، يعلم نفسك، يعلم هذه النفس هذه كيف تتحرك، انت تحوس يعني تلعب، يموت يقول انا صلت، هو يدخل في الصلاه ويجي القفا، ما صلى ما صلى وما خشع في صلاته، فهذا هو المقصود يا اخوان، صلى الله عليه وسلم يوفقنا واياكم.
Donc, répond, nous dit que le cœur est la porte des autres sens. Et si il nous a été proscrit de nous détourner, ne serait-ce qu'avec le regard, à plus forte raison avec le cœur. Et sache que tu ne pourras atteindre la concentration et les recueillements dans ta prière, si ce n'est avec la concentration et les recueillements du cœur. Tout comme tu ne pourras atteindre le recueillement et la concentration avec le cœur, si ce n'est après que les membres atteignent également cela. Donc il n'y a pas de dissension entre la concentration et le recueillement, que ce soit du cœur ou des membres. Et sache qu'il nous a été interdit tout ce qui pouvait amener à cela. Aussi le Cheikh Habibullah Ta'ala nous dit qu'il y a un diable dont la spécialité est de distraire la personne dans sa prière. Il n'a pour mission que
que de te corrompre dans ta prière. Lorsqu'il y a l'adhan, le diable le fuit. Et les savants ont dit que la sagesse de son action est afin de ne pas entendre l'appel à la prière qui contient et renferme le monothéisme pur et la proclamation du fait qu'Allah soit le plus grand. Il se sauve. Et il nous a même été cité dans des textes prophétiques. Il se sauve en faisant un fait, donc le son est entendu. Est-ce qu'il s'en va sans retour? Détrompe-toi. Il attend l'occasion. Puis il revient après que tu sois entré dans ta prière afin de te distraire. Il te fait rappeler ton épouse. Mon épouse a fait ceci et cela. Il te fait te rappeler tes enfants. Mes enfants ont fait ceci et cela. Il te fait rappeler ton travail, ton action, ton argent, ton compte en banque et d'autres choses. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'accomplir la prière alors que nous avons un besoin pressant. Il nous a dit de ne pas accomplir la prière tant que nous avons, ou bien lorsque nous avons un besoin pressant. Il nous faut aller faire nos besoins, puis revenir pour pouvoir faire la prière, car sans cela, tu ne saurais atteindre la concentration. Pareillement pour le hadith qui nous dit qu'il ne faut pas prier lorsque le repas est servi. Et on trouve aujourd'hui, et surtout de nos jours, avec les plats qui sont très généreux. Au jour d'aujourd'hui, yani la personne devant qui l'on pose un plat, comment elle pourra obtenir la concentration et le recueillement dans sa prière? Celui qui se retrouve devant un plat, ou bien on peut trouver certaines personnes se pensant plus pieuses que les autres et faisant des excès de zèle. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent non. Comment est-ce que je pourrais délaisser ma prière pour ce repas? Cette personne-là, elle ne délaissera pas le repas. Elle va entrer dans la prière et ce repas va venir dans sa prière. Comment est-ce qu'il pourrait donc atteindre le recueillement ainsi que la concentration? Celui qui t'a créé, celui qui t'a ordonné cette prière te connaît mieux, donc suis ce qui t'a été commandé, c'est-à-dire, je fais référence à le fait de manger avant d'accomplir la prière. Tout cela pour obtenir la concentration. J'aimerais faire l'Égypte, mais ma grand-mère est négligée par ses enfants. Elle vit seule. Ma mère et ses frères et sœurs ne vont la voir que très rarement. Suis-je dans le péché si je fais la jira, sachant que ma grand-mère restera seule?
لا شك ولا غير والمقصود بالهجرة إذا أطلقت ثلاث معاني. الهجرة الأولى التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، وهي هجرة الصحابة الأولى من مكة إلى أرض الحبشة مرتين، ومن مكة إلى المدينة للمرة الأخيرة، والتي قال فيها النبي لا هجرة بعد الفتح، بعد أن فتح الله مكة. يعني المقصود بها هذه الهجرة، هجرة الصحابة من مكة إلى المدينة انتهت بعد الفتح، ولكن الهجرة باقية إلى قيام الساعة. الهجرة النوع من النوع الثاني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن المسلم مطالب بأن يقيم مع إخوانه مع المسلمين في البلد الذي تظهر فيه أو تظهر فيه شعائر الإسلام ويسمع فيه الآذان، البلد الإسلامي يجتمع مع المسلمين، ونهينا أن نقيم مع المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا حديثا عظيما فيه وعيد شديد: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين.
هجرة ثالثة الهجرة من بلد السوء إلى بلد الخير، من بلد المعصية إلى بلد الطاعة، من بلد البدعة إلى بلد السنة، كهجرة ذلك القاتل الذي قص النبي قصته من بني إسرائيل الذي قتل مئة نفس، أراد أن يتوب. نصحه ذلك العالم بأن يترك هذا البلد لأنه بلد سوء ويهاجر إلى بلد آخر. وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نهجر المعاصي كلها، لكن هذه الهجرة لا بد أن تراعى فيها مثل هذه الأمور، لأن دين الله تبارك وتعالى مبناه على المصالح والمفاسد. دين الله جاء لدرء المفاسد كلها وتخليلها وجلب المصالح جميعها وتكميلها، ودرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذا كان هذا الأخ الذي هداه الله دين الإسلام يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياه على الحق، وأن لا يميتنا إلا على دينه، وهذا فيه خير. الله أن يبارك فيه. أسلم، علم هذا الحكم، أراد أن يعمل به وأن يهاجر امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كما ذكر فالواجب عليه أن يبقى مع هذه الأم أو على هذه الجدة، وإن كانت كافرة صلى الله عز وجل يوفقه لأن يكون سببا في هدايتها، بإحسانه إليها، بعمله قبل قوله ولسانه، والله هو الموفق.
آمين. Car répondu que l'égir est cité, on entend par cela l'une de trois choses. La première chose, c'est l'égir d'après l'ouverture de la Mecque. Concernant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a plus d'égir après Al-Fath, l'ouverture. C'est-à-dire l'égir faite par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, de quitter la Mecque pour aller à Al-Madina. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit que celle-ci s'est arrêtée, elle est finie, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, il y en a une deuxième qui ne s'arrêtera pas jusqu'au jour de la résurrection. C'est le fait de quitter une terre mécréante vers une terre d'islam. Et il t'a été commandé de vivre au sein des tiens, des musulmans, dans un endroit où les emblèmes de l'islam sont élevés, à l'image de l'appel à la prière. Et nous a été proscrit de rester au sein des polythéistes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet effet nous cite un hadith qui comprend une grande menace, c'est qu'il se désavoue de tout musulman ayant établi séjour au sein des associateurs. Troisièmement, l'égir, qui est le fait de quitter une terre de mal pour se rendre sur une terre de bien, une terre sur laquelle on désobéit Allah vers une terre sur laquelle on obéit Allah, une terre où il y a l'innovation pour se rendre vers une terre où il y a la tradition prophétique. Et rappelez-vous le hadith de celui qui a tué 100 personnes. Lorsqu'il a tué une centième personne, il a reçu par la suite le conseil d'un savant qui lui a conseillé de faire l'égir, de quitter cette terre où il y avait du mal pour se rendre sur une terre où il y aura du bien. Il nous faut également délaisser les péchés. Ceci est une hijra.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette religion nous appelle, ou bien nous est venue, pour nous apporter le bien et le parfait, et pour repousser de nous le mal et le diminuer. Et sache que de repousser le mal prévaut sur le fait d'apporter le bien. Nous devons donc nous préserver. Quant à toi qui dis dans la question que tu es converti, Allah te raffermisse, le Cheikh a fait des invocations en sa faveur, en notre faveur. Par la suite, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, si ta situation est telle qu'elle, ce qu'il t'incombe, c'est de rester auprès de ta grand-mère, même si elle est non musulmane. Et peut-être qu'ainsi, tu seras une cause de sa guidée et de sa conversion à l'islam. Et appelle-la à cela avec tes actions avant même tes paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Amen.
Une sœur dit que sa grand-mère est décédée et qu'elle lui a légué une partie de sa terre, si ce n'est qu'elle n'a donné cela qu'à elle et n'a pas partagé cela entre eux, ses différents petits-enfants. Est-ce que, ou bien quel est le jugement de ce cadeau?
Alhamdulillah, salat wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la shak mafhoum min su'ali hadha annaha taqsid anna jaddataha ahdatha hadhihi al-ard fi hayatiha, yani qabla mawtiha. Jaddu, sa grand-père. هذه وصية نبوية غالية. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الآباء بالعدل بين الأبناء في العطايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. حتى أن ذلك الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مولى سالم وقد نحله أبوه نحلة يعني عطية، وجاء هذا الأب للنبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلتهم مثله، يعني أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال: لا يا رسول الله. قالوا: إذا لا أشهد على زور. أبى أن يشهد النبي عيسى وسمى هذا زور. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا هذه الأخت إن شاء الله يبارك فيها تريد يعني الخلاص لجدها أو لجدتها على اختلاف بين المترجمين، والراجح هو جده. أرادت الخير لهذا الواهب جدها، فتسأل هي هل هذا يجوز؟ إذا كان يعني لهذا الجد غير هذه الحفيدة، غير هذه الحفيدة، الواجب عليه وعنده أبناء، وعنده أبناء، يعني وما كان فيه هناك مبرر على هذه الهدية. يعني ممكن الجد هذا، هذه الحفيدة أحسنت إليه، وخاصة في هذا الزمان بعض الأولاد ربما يضيعون أباءهم أو أجدادهم، وهذه خدمته وسعت على راحته و أعطاها مكافأة لها على إحسانها، فهذه حلال جنات، هذا الذي أخرجه. أما إذا كان
غير هذا ولكن أعطاها هكذا فالواجب عليه هو أن يعني بين الأولاد في العطية، وبالتالي هي تكون مشفقة على جدها وتجعل هذا بين ورثته، تقول أنا أعطاني جدي هذا إلا أني لا أريد له تحمل الأوزار يوم القيامة، هذا هذه الأرض أجعلها في التركة، هذا هو المطلوب بالنسبة لها، وليس بواجب عليها على الإنسان، ولكن من إحسانها صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياها من المحسنين والمحسنات.
Mon cher nous dit, la balle dans les cadeaux octroyés aux enfants est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est, au bouquet avec vous, soyez équitable, et craignez Allah et soyez équitable envers vos enfants. Il cite un hadith dans lequel un homme a fait un don à l'un de ses enfants. Il est venu prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que témoin, c'est-à-dire qu'il lui a dit « Regarde au message d'Allah, je vais faire cela à mon enfant. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Est-ce que tu as offert la même chose à chacun de tes enfants ?» Il a dit non. Il a dit donc sallallahu alayhi wa sallam « Alors je ne serai point témoin pour cette mauvaise chose. » Donc concernant la question de la sœur, elle veut le bien, elle a reçu une donation, elle vient donc poser cette question. Est-ce que c'est licite de tirer profit de tout bien, de garder cette sœur? Ce qui incombait au grand-père, sauf dans le cas où cette petite fille a eu un comportement particulier avec le grand-père, surtout à cette époque où beaucoup délaissent leurs grands-parents ou leurs aïeux. S'il n'y a pas de cause qui appelait à lui ajouter une chose, un don, alors ce qui lui incombait, c'est d'être juste dans la donation envers ceux qui étaient, yani ses enfants et ceux qui sont sous lui. Donc, la femme qui a reçu cette terre, si elle veut être bienfaisante envers son grand-père, elle dit, voici ce qui m'a été donné, je le remets aux héritiers, afin que mon grand-père ne porte pas ses péchés et ce fardeau le jour de la résurrection. C'est une bienfaisance, mais cela ne lui est pas obligatoire.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.